Donc, on va commencer notre 38e leçon dans notre série sur l'histoire de l'Église. Ce soir, on va voir les réformés en France au 17e et 18e siècle. Alors, juste pour vous informer, après les réformés en France au 17e et 18e siècle, il va nous rester une leçon à faire pour parler de la réforme dans la langue française en Europe. Donc, la prochaine leçon va être sur la Suisse romande. Donc, la Suisse romande, c'est la partie française. Donc, l'œuvre de la réforme a été un petit peu différente. Donc, ça va terminer le côté français. Après ça, bien là, on va s'en aller en Angleterre. On a pour un bout de temps en Angleterre, dans les leçons qui vont suivre. Alors, jusqu'ici, on avait étudié la réforme sous Calvin et les principaux événements en France entre les années 1547 et 1598, dont le massacre de la Saint-Barthélemy à Paris et dans d'autres régions de la France qu'on avait regardées la semaine dernière. On va maintenant examiner le sort des réformés en France au cours des siècles suivants, soit le 17e et 18e siècle. Alors, les réformés ne jouirent pas longtemps en plein de l'édit de Nantes. Sous Louis XIII, fils et successeur d'Henri IV, ils eurent affaire au cardinal de Richelieu, chef du Conseil du roi, qui avait assigné à sa politique la ligne directive suivante. Assurer l'autorité royale en annulant les privilèges de quiconque prétendait y résister. Or, ses adversaires, que Richelieu ne nommait pas, étaient les nobles et les protestants. Ces derniers, en effet, constituaient un véritable État dans l'État, grâce à leur ville de sûreté, où ils pouvaient concentrer des forces militaires et au droit qu'ils avaient de se réunir en assemblée provinciale et nationale. Inquiets au sujet des intentions du cardinal, au lieu de compter sur la puissance de Dieu pour leur aider, et oubliant que la Bible prescrit la soumission aux autorités, les réformés prirent les armes pour résister à une attaque éventuelle. Ils avaient choisi La Rochelle comme centre de leurs opérations. Richelieu assiégea la place et s'en empara malgré l'héroïque résistance des rebelles. Peu après, il leur accorda la grâce d'Alais, titre significatif qui prouvait qu'il ne s'agissait plus d'un traité, comme on en avait conclu précédemment, ni d'une négociation de puissance à puissance. Les protestants rentraient dans le droit commun et perdaient par conséquent tous ceux des privilèges concédés par l'édit de Nantes qui leur avait permis de constituer un parti politique. En revanche, la liberté de culte et l'égalité absolue avec les catholiques leur étaient garanties. Richelieu estimait en effet que la religion ne se sème pas avec le sang et tenait pour absolument condamnable la contrainte religieuse. Il est frappant de voir le Seigneur agir de façon si évidente dans le cœur de ce haut dignitaire de l'Église qui, toute sa vie durant, s'opposa formellement à toute violence et força ses co-religionnaires intolérants à respecter la liberté de conscience de leurs compatriotes. Louis XIV adopta une tactique fort différente. Il dut reconnaître que les protestants n'avaient pris aucune part aux troubles de la Fronde qui éclatèrent pendant sa minorité, mais qu'ils s'étaient comportés en sujets parfaitement loyaux. Il rendit même publiquement hommage à leur fidélité. Cependant, dès le début de son règne, animé du même désir que Richelieu d'amener l'unité dans ses États, il affirma sa ferme volonté de faire rentrer dans l'Église catholique les 1200 000 protestants, donc 1 200 000 protestants du royaume. Point de rigueur, application stricte de l'édit de Nantes, mais rien au-delà. En renfermer même l'exécution dans les plus étroites limites que la justice et la bienséance pouvaient permettre. Ce sont les propres paroles du roi. Quant aux grâces, aux faveurs qui dépendaient de lui, aucune. Tout rigide qu'il fût, ce système pouvait se supporter. Il accordait davantage aux protestants français qu'à ceux qui habitaient tous les autres pays catholiques de l'Europe. Mais c'en était beaucoup trop aux yeux du clergé, docile serviteur de la haine pontificale vis-à-vis du témoignage chrétien selon la parole de Dieu. Il déclarait ouvertement que l'édit de Nantes était le plus mauvais par lequel était permise la liberté de conscience à chacun, qui est la pire chose du monde. Elle passait pour un précipice creusé devant les pieds comme un piège préparé à la simplicité des humains et comme une porte ouverte au libertinage. Et le clergé ajoutait que la destruction de l'hérésie est notre unique affaire. Contradiction formelle avec les mots de Jean, chapitre 4, verset 24, « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Les jésuites prirent en main la direction du mouvement. Ils se donnèrent pour but d'exercer une influence toujours plus marquée sur l'esprit du jeune roi, mais trop habile pour lui conseiller d'abolir l'édit d'un seul trait de plume, puisqu'Henri IV l'avait concédé à perpétuité, ils entreprirent de l'interpréter, tout en engageant le souverain à en respecter, disait-il, la lettre. Combien est vrai l'affirmation que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Les jésuites le savaient mieux que personne. L'application de cette méthode aboutit à une persécution de 25 ans, avant d'en venir à la suppression définitive de la réforme. On se mit à interdire aux protestants tout ce que l'édit ne leur garantissait pas en termes express. Il ne disait pas, par exemple, qu'ils pourraient enterrer leur mort quand et comme ils le voudraient, assister au mariage et au baptême en tel nombre qu'il leur plairait, entrer comme apprenti dans toute corporation, etc. Des ordonnances royales, inspirées par les ennemis des réformés, défendirent donc qu'aucun enterrement protestant eût lieu après 6 heures du matin ou avant 6 heures du soir, que le cortège compta plus de 30 personnes, que pour un mariage ou pour un baptême, plus de 12 protestants fussent présents. On démolit les temples élevés postérieurement à l'édit. On dut borner l'enseignement dans les écoles protestantes à la lecture et à l'écriture. Ces mesures laissaient prévoir que d'autres suivraient de plus en plus rigoureuses. Les protestants résolurent donc de s'adresser directement au roi et de lui représenter à quel point leurs inquiétudes se légitimaient. Il y avait lieu de lui rappeler aussi la fidélité qu'il devait à la parole donnée par son grand-père. Le vénérable pasteur du Bosc de Rouen fut chargé de parler au nom des membres de la délégation. Voici la péroraison de son émouvant discours. On nous ôte nos temples, on nous exclut des métiers, on nous prive des moyens de vivre, et il n'y a plus personne de notre religion qui ne songe à la retraite ou à s'exiler. Si donc votre majesté songe à frapper un dernier coup, chacun tâchera à se sauver. Ce ne sera plus qu'une débandade générale. Je proteste saintement en votre présence que je dis la vérité comme elle est. Au nom de Dieu, sire, écoutez en cette occasion nos gémissements et nos plaintes. Écoutez le dernier soupir de la liberté mourante. Lorsque la délégation se fut retirée, Louis XIV se contenta de dire « Jamais je n'avais entendu si bien parler », mais il ne changea rien son attitude vis-à-vis de ses infortunés sujets. La conduite privée du roi donnait lieu à de tels reproches que l'opinion publique s'en émouvait. C'était un scandale public. C'est alors que ses confesseurs, les pères jésuites Letellier et Lachaise, ainsi que Madame Maintenon, lui persuadèrent qu'il effacerait la déplorable impression produite par ses liaisons criminelles en convertissant au catholicisme les Huguenots. Dès lors, l'édit de Nantes se trouva révoqué, en fait, avant de l'être officiellement 5 ans plus tard. Complètement enlacé dans les pièges de Satan, le roi prêta une oreille complaisante à ses mauvais conseillers et promulgua des mesures bien plus graves que celles mentionnées ci-haut. Les enfants protestants furent autorisés à se convertir au catholicisme, malgré leurs parents, dès l'âge de 7 ans, âge auquel ils sont incapables de raison et de choix, disait cyniquement l'ordonnance. On devine sans peine combien il était aisé d'amener ces jeunes enfants à admettre et à promettre tout ce qu'on leur proposait. Ces nouveaux convertis étaient libres de quitter leur famille, s'ils le voulaient, en exigeant de leurs parents une pension. Successivement, on interdit aux protestants toutes les fonctions publiques, puis toutes les carrières libérales. Ils ne purent acheter aucun office, ils ne purent être ni avocats, ni médecins. À peine leur laissait-on l'industrie et le commerce, ils s'y jetèrent en foule et prospérèrent. À côté de ces mesures de rigueur, on essaya de la corruption en créant une caisse de conversion. Quelques centaines de malheureux abjurèrent pour 6 francs par tête. On leur accorda comme récompense l'exemption d'impôts. Mais la très grande masse des réformés restait inébranlablement ferme dans sa foi. La puissance du Seigneur se manifestait de manière éclatante dans leur infirmité. Pour hâter les conversions, on imagina les horribles dragonnades menées par les missionnaires bottés, qu'on appelait. C'était tout simplement, en effet, des soldats, des dragons, qu'on logeait chez les protestants. L'armée se recrutait alors dans la lie de la population, autrement dit les pires bandits. Ces dragons se conduisirent comme en pays conquis, saccageant les maisons, torturant les habitants, dans certains cas, par exemple, battant du tambour jour et nuit pour priver de sommeil leurs malheureuses victimes. Ce système ne réussit que trop bien. Le nombre des abjurations augmenta si rapidement qu'on put faire croire au roi qu'il ne restait plus en France que quelques centaines d'obstinés. Ignoble mensonge, car les Huguenots demeurés fidèles au Seigneur étaient infiniment plus nombreux que ceux qui avaient apostasié. Dans ces conditions, déclarait-on, l'édit de Nantes n'avait plus raison d'être. Et le 18 octobre 1685, Louis XIV en signait la révocation. Les protestants non encore convertis ne seraient inquiétés en aucune façon, mais ils encouraient la peine des galères s'ils essayaient d'émigrer et leurs enfants seraient élevés dans la foi catholique. Tous les temples devaient être détruits et les pasteurs expulsés. Il va de soi que le clergé accueillit cet acte infâme avec des transports de joie, de même que la presque unanimité de la nation, à laquelle on avait cessé d'insuffler des sentiments de jalousie à l'égard des réformés, dont la prospérité matérielle était notoire. Les plus grands écrivains, Bossuet, Racine, La Bruyère, Fénelon, n'eurent qu'une voix pour célébrer l'événement. Madame de Sévigné écrivait « C'est la plus grande et la plus belle chose qui ait jamais été imaginée et exécutée. » Deux hommes de marque blâmèrent nettement la révocation. L'historien Saint-Simon, dont on ne publia les mémoires que très longtemps après sa mort, tellement il portait des jugements sévères sur Louis XIV et sa cour, avait osé écrire cette phrase cinglante au sujet de l'événement. Le roi n'entendait autour de lui que des éloges et il avalait à longs traits ce poison. Vauban, le célèbre ingénieur militaire, déplorait lui aussi amèrement la révocation, en se plaçant, il est vrai, au point de vue strictement stratégique. Elle amena, écrivait-il, la désertion de 100 000 Français, la sortie de 60 millions de francs, la ruine du commerce, les flottes ennemies furent grossies de 9 000 matelots, les meilleurs du royaume, leurs armées de 600 officiers et de 12 000 soldats, plus aguerris que les leurs. Vauban disait encore, les rois sont bien maîtres des vies et des biens de leurs sujets. mais jamais de leurs opinions, parce que les sentiments intérieurs sont hors de leur puissance. La plupart des protestants qui avaient abjuré ne le firent qu'avec le secret espoir que l'orage passerait et que le temps reviendrait de la liberté religieuse. Quand la révocation leur eut démontré combien cette perspective était vaine, un grand nombre retrouvèrent leur confiance en Dieu et leur courage, qui fut admirable. Malgré la surveillance étroite aux frontières et sur les côtes, ils partirent par milliers, 200 000 au moins, peut-être bien davantage, renoncèrent à tout, fortune, foyer, patrie, risquèrent leur liberté, leur vie pour leur foi. Des hommes capables de pareils sacrifices et de pareille énergie formaient une élite dont la disparition affaiblit singulièrement la France et enrichit proportionnellement les pays qui leur donnèrent asile. C'est pour ce motif que Colbert, bien plus clairvoyant que le roi aveuglé par sa passion, s'était prononcé catégoriquement contre la révocation. Mais les concurrents des protestants les voyaient de mauvais œil parce qu'ils se donnaient tout entier à leur travail, n'étant pas, comme les catholiques, entravés à chaque instant par le chômage obligatoire lors des fêtes de l'Église. L'Angleterre, la Suisse, l'Allemagne accueillirent les malheureux réfugiés avec un empressement digne de tout éloge. Plus de 20 000 d'entre eux se fixèrent dans le Brandebourg, centre de la Prusse actuelle, vrai désert de sable qu'ils surent mettre en valeur et fertiliser. On raconte que plus tard, le grand électeur de Brandebourg recevait un jour l'ambassadeur de France. Celui-ci lui demanda de la part de Louis XIV ce que son maître pourrait bien pour lui être agréable. Il répondit une seconde révocation de l'édit de Nantes qu'aurait rétorqué l'électeur en ricanant. En revanche, certaines régions de France, la Touraine, le Lyonnais, le Poitou, périclitèrent fortement et plusieurs industries furent gravement atteintes. La révocation excita en Europe la haine de tous les États protestants contre la France. On peut dire à coup sûr qu'elle fut, dans la main de Dieu, la cause principale de déchéance de la France pendant la seconde partie du règne de Louis XIV. Comme le dit Proverbe chapitre 16, verset 12, « C'est une abomination pour les rois de faire l'iniquité, car par la justice, le trône est rendu ferme. » L'ère des persécutions se rouvrit. Elles furent terribles et pratiquées avec des raffinements de cruauté encore inconnus. Un seul exemple suffira pour les caractériser. C'est le récit fait par une des victimes, Blanche Gamon, transférée de Grenoble à l'hôpital de Valence, dont le directeur Desrapines, qu'on surnomma La Rapine, était si célèbre dans l'art d'opérer des conversions contraintes que son seul nom faisait faiblir des courages restés jusque-là inébranlables. Le soir arrivé, La Rapine me fit venir avec celle qui n'avait jamais changé de religion. Nous étions 6 en sa présence. Il y avait pour spectateurs 20 à 30 papistes. Quand nous fûmes là, il nous fit mettre tout en rang devant lui et il s'adressa à nous en disant: « Vous êtes des opiniâtres et des rebelles au roi et à Dieu, mais je veux que vous changiez ou vous crèverez sous les coups. Je vous ferai bien céder, race maudite de vipères, à coups de nerf de bœuf, car je sais mon métier. Vous ferez la balayure de l'hôpital, vous balayerez depuis le matin jusqu'au soir, et si vous manquez, vous aurez 100 coups de bâton. Après cela, je vous ferai mettre au cachot où vous mourrez de faim. Mais afin que vous languissiez plus longtemps, vous n'aurez qu'un peu de pain et d'eau. Dans 30 ou 40 jours au plus, vous serez morte. Puis, on vous jettera à la voirie et le roi sera défait d'un méchant sujet, malheureux dans cette vie, damné dans l'autre. Comptez là-dessus. » Plus d'une fois, Blanche Gamon faillit succomber sous ces traitements atroces. Un jour en particulier, la rapine, exaspérée de sa résistance et de sa fermeté, comme elle le raconte elle-même, écumant de colère, l'ayant fait mettre à genoux et l'accablant des plus outrageantes épithètes, enjoignit aux filles de service de lui donner les étrivières. Six de ces cruelles mégères, trop bien dressées à cet emploi, armées chacune d'un paquet de verges d'osier longues d'une aune, l'ayant déshabillé jusqu'à la ceinture, l'attachèrent à une poutre, de manière qu'elle était pendue par les bras, et la fouettèrent jusqu'au sang, en lui disant avec moquerie, « Maintenant, prie ton Dieu. » Le Seigneur répondit en effet aux supplications de sa faible mais indomptable servante et la libéra des mains de son tortionnaire. D'autre part, les montagnards des Cévennes, poussés à bout, prirent les armes pour défendre leur religion. On les appela les Camisards, parce que pour se défendre, ils portaient une longue chemise blanche par-dessus leurs vêtements. Malheureusement, ils se laissèrent aller à bien des excès regrettables. Ils eurent leurs prophètes, leurs inspirés, qui enflammaient leur ardeur, leur donnaient même des avis qu'ils tenaient pour célestes, car ils prétendaient avoir des visions. Leur chef, cavalier, jeune homme enthousiaste, avait reçu à Genève une certaine instruction. Le soulèvement dura 2 ans, de 1702 à 1704. Il retint les meilleures troupes de Louis XIV et l'un des maréchaux les plus distingués, Villars, rendant ainsi un service signalé aux ennemis de la France. On ne peut que blâmer les Camisards d'avoir souvent dépassé la juste mesure, mais ils se comportèrent néanmoins en valeureux témoins du Seigneur, très convaincus, très sincères. Au 18e siècle, un certain nombre des exilés rentrèrent, mais la persécution guettait toujours les protestants. Leurs assemblées étaient interdites sous peine de prison ou de galère et de mort pour les pasteurs. Ils durent se rencontrer dans la solitude des forêts ou dans les montagnes et les cavernes. Ce fut le cas des habitants des Cévennes et on a donné à leur groupement le nom d'Église du désert. Une héroïne de ces temps périlleux pour les enfants de Dieu fut Marie Durand, dont le nom est très connu. Enfermée à 15 ans dans la tour de Constance à Aigues-Mortes en 1730, elle n'en sortit qu'avec sa chevelure toute blanchie par 38 ans de captivité et les souffrances qu'elle endura. On voit encore sur le dallage de la pièce où elle était retenue captive, gravé de sa propre main dans la pierre, ce seul mot, résister. C'est le résumé d'une éloquence grandiose dans sa brièveté de tout ce qu'endurèrent les martyrs de France. Deux hommes se firent remarquer par leur dévouement à ces assemblées de fidèles, Antoine Cour et Paul Rabot. Antoine Cour, élevé par une mère pieuse, car il avait perdu son père de bonne heure, s'attacha, très jeune encore, à l'un des prédicants qui était resté dans son pays natal, le Vivarais. Il suivait les réunions nocturnes avec assiduité et y prit souvent la parole. Les privations qu'il eut à endurer, les dangers qu'il courut, le firent tomber dangereusement malade. Retenu longtemps dans sa chambre, il eut le désir de réfléchir, de se mûrir. Lorsqu'il put enfin reprendre de l'activité, ce fut pour se consacrer de toute son âme au service de ses frères dans le Seigneur. Sous son influence, les protestants résolurent d'opposer à la persécution désormais non plus de la résistance armée, mais la foi et la patience, en un mot, de compter uniquement sur le Seigneur afin de recevoir de lui la direction sur le chemin à suivre. On décida aussi d'interdire aux femmes de prendre la parole dans les assemblées, selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34, de faire comprendre aux éliminés qui prétendaient recevoir d'en haut des révélations spéciales que ceci non plus n'était pas conforme à l'enseignement scripturaire. On leur enjoignit donc de se taire et d'écouter ceux de leurs frères que leur âge et leur expérience qualifiaient pour ce service. Enfin, Cour crut voir la nécessité de créer une école pastorale pour former des ministres versés dans la connaissance de la parole de Dieu et aptes à enseigner les autres. Ce séminaire ne pouvait pas exister en France. Le clergé, averti, l'aurait fait fermer sans délai. Il s'ouvrit donc à Lausanne et fournit à l'Église du désert plus d'une centaine de pasteurs. Antoine Court caractérisa ainsi ce qu'il appelait l'esprit du désert. Ça doit être avant tout un esprit de sanctification, de marche constante dans la dépendance de Dieu, de renoncement à soi, un esprit de prière, de réflexion, de grande sagesse, puisée à la source où on la trouve auprès du Seigneur lui-même, un esprit de martyr qui, nous apprenant à mourir tous les jours à nous-mêmes, nous dispose à perdre courageusement la vie dans les tourments ou sur un gibet, si telle est la volonté de Dieu. Les élèves d'Antoine Court eurent à supporter un redoublement de violence de 1750 à 1760. Mais le Seigneur les fortifia et leur accorda la faveur de ne pas faiblir devant le danger. L'autre individu, c'est Paul Rabaut. Paul Rabaut, le plus connu d'entre eux, exerça pendant un demi-siècle un ministère très apprécié et fidèle. Il gagna l'affection de tous et leur estime par son dévouement, mais aussi par la sagesse qui le caractérisait. C'était vraiment cette sagesse d'en haut, paisible, modérée, traitable, pleine de miséricorde, comme on peut le lire dans Jacques, chapitre 3, verset 17. Rabaut eut beaucoup à souffrir. Le sang des martyrs ne cessait de couler. Les condamnations iniques pleuvaient. Ainsi, 12 couples se voyaient condamnés en bloc pour le simple fait d'avoir été unis par des pasteurs, les femmes à la prison, les hommes aux galères. Rabaut assista à la Révolution française. Il en discerna bien vite le véritable caractère. Son fils, Rabaut Saint-Étienne, se laissa élire comme député à l'Assemblée nationale et en devint même le président. Son père ne se laissa pas éblouir par cet honneur et écrivit à son fils « Garde-toi de l'illusion. Penses-tu vraiment qu'une liberté véritable puisse sortir de cette révolution? La France ne sera sauvée que quand elle donnera à celui qui nous sauve, quand elle se donnera à celui qui nous sauve. Et celui qui nous a sauvés n'est ni Rousseau, ni Voltaire, ni le pape. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, par son sang, qui a coulé à la croix. » Prophétie qui s'accomplit bien vite, car 3 ans plus tard, le jeune Rabaut payait de sa tête son intrusion dans les affaires politiques. Son père fut jeté en prison et il fut relâché après la terreur et il mourut bientôt à l'âge de 84 ans. Il est frappant de voir dans la France du 18e siècle comment Dieu s'est servi pour la réalisation de ses desseins d'hommes qui professaient l'incrédulité la plus acharnée. Parmi eux, Voltaire. Il passa sa vie, il employa ses talents à lutter contre le christianisme. Son esprit diaboliquement satirique le poussa aux pires invectives contre la Bible, contre la personne du Sauveur, contre les miracles. Voltaire fut néanmoins un chaleureux défenseur de la tolérance dans tous les domaines et il le prouva entre autres en prenant en main la cause d'un protestant de Toulouse, Calas, qui fut roué vif sous l'inculpation fausse d'avoir assassiné son propre fils. Voltaire n'eut ni trêve ni repos jusqu'à ce qu'il eût obtenu la révision du procès et l'entière réhabilitation de l'infortuné victime du clergé catholique. Tous les écrivains, dénommés les philosophes, soutinrent la même idée. Au nom de la liberté dont chaque individu doit pouvoir jouir. Mais poussant ce principe jusqu'à ses dernières conséquences, s'appuyant sur la seule puissance de la logique humaine, il déclarait hautement que l'homme, étant son propre maître, ne doit pas dépendre de rien ni de personne. Ils en faisaient le roi de l'univers. Leurs idées ont fait leur chemin, d'autant plus aisément qu'ils surent les exposer sous une forme simple et séduisante. Elles s'épanouissent aujourd'hui en plein dans les pays qui, comme la Russie, ont osé nier l'existence même de Dieu, réalisant par avance une partie de l'état des choses décrit en 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Ne voit-on pas là, en ce qui concerne la France, un châtiment de Dieu sur ce royaume où la vérité brilla d'un si vif éclat, puis fut étouffée par un mouvement concerté par le gouvernement et le clergé, et auquel la nation elle-même ne prêta que trop volontiers la main. Ô liberté, que de crimes on commet en ton nom, s'écria en montant à l'échafaud Madame Roland, une des victimes de la Révolution. Il est une liberté après laquelle toute la création soupire dans son désir d'être affranchie de la servitude de la corruption pour jouir de la liberté et de la gloire des enfants de Dieu, qu'on peut lire dans Romains 8, verset 21. Alors, j'ai mis 4 applications de cette histoire-là. La première, apprenons que les ennemis de l'Évangile, le roi et ses mauvais conseillers, le clergé catholique et la populace méchante et ignorante, ne cessèrent de violenter le peuple de Dieu d'innombrables manières, de les priver de leurs droits et de leurs libertés, de chercher à les éliminer par les plus ignobles moyens et des procédés corrompus et remplis des péchés les plus horribles. Deuxième application, louons le Seigneur d'avoir soutenu ses martyrs durant ces périodes sombres de l'histoire des chrétiens en France. Admirons le courage, la ténacité de ces héros de la foi. Troisième, observons que ces mesures draconiennes des ennemis de l'Évangile eurent de graves et fâcheuses conséquences sur la vie morale, sociale, économique et politique de la France. Ce fut le jugement du Seigneur. Quatrièmement, remarquons qu'il est possible de demeurer ferme dans la foi par la grâce de Dieu, même dans les circonstances les plus difficiles. Louons le Seigneur. Louons Dieu pour sa grâce, sa sagesse et sa bonté lors des périodes sombres de l'histoire. Prions pour des grâces prévenantes dans l'éventualité que le Seigneur permette le retour de circonstances difficiles.